L'Écomusée du Fiermonde a rouvert ses portes dimanche dernier et j'ai le plaisir d'en parler avec le directeur du musée qui est aussi responsable de la recherche et des collections. Bonjour, Éric Giroux.
Bonjour.
Alors, dites-moi, comment s'est déroulée la réouverture de l'Écomusée?
Ça s'est bien passé. En fait, on a pris quand même une semaine là, pour bien intégrer toutes les nouvelles procédures et normes que l'on doit appliquer pour s'assurer de respecter les exigences de la santé publique.
Ça a été beaucoup de travail?
Oui, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, on comprend que c'est important de le faire.
Ouais.
Maintenant, il y a de nouvelles procédures. Les gens rentrent un par un. Il y a un maximum de personnes dans le musée. Les gens, bon, comme dans les commerces, les gens doivent se désinfecter les mains, tout ça, suivre les directions. Mais dimanche, ça s'est bien passé, donc on espère que ça va continuer comme ça pour tout l'été, en fait.
Avant de parler de ce que vous proposez à l'Écomusée du Fiermonde, M. Giroux, dites-nous, la vocation de votre musée, quelle est-elle?
L'Écomusée du Fiermonde, c'est un musée d'histoire et un musée citoyen. On est situé sur la rue Atatéken à Montréal, donc dans l'ancien bain généreux. Là, je mentionne Atatéken, peut-être que les gens sont plus familiers avec Amherst, là. C'est un changement de nom qui est assez récent.
Mais on commence à être familier. Là.
Oui.
C'est juste, on est moins familier avec la prononciation, là, mais Atatéken, on va essayer de retenir ça. Je pense que c'est la bonne façon de le dire.
Oui. Alors, comme musée d'histoire, on s'intéresse beaucoup à l'histoire du centre-sud, le quartier dans lequel on se trouve, donc qui est juste un peu à l'est du centre-ville. On utilise souvent le centre-sud comme un témoin privilégié de l'histoire de Montréal aussi. Donc, d'un point de vue historique, là, on s'intéresse à ce territoire-là, à des enjeux comme l'histoire du travail, l'histoire de l'industrie, l'histoire de la vie quotidienne. Et comme musée citoyen, on développe souvent des projets en collaboration, en partenariat, soit avec des organismes du quartier, avec des étudiants parfois. Alors, c'est un petit peu notre mandat citoyen là, qu'on développe à travers ces projets-là.
Et justement, l'exposition qui est en cours, en tout cas avec laquelle vous avez rouvert vos portes, s'intitule « Déjouer la fatalité ». Pauvreté, exactement. Famille, institution.
Oui.
Et c'est en plein dans votre mandat, là.
Exactement, oui. L'exposition a été présentée une première fois l'automne dernier. C'est une exposition qui a été développée avec le Centre d'histoire des régulations sociales, qui est basé à l'UQAM, donc qui regroupe des chercheurs qui, depuis plusieurs années, s'intéressent à différents thèmes liés à la régulation sociale. Bon, comment on intervient auprès des démunis, surtout d'une perspective historique, là. Alors, le contenu, ce qui nous permet de voir un peu, c'est comment la charité institutionnelle s'est développée à Montréal.
Ah ouais.
Surtout au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, Montréal est en pleine industrialisation. Le travail en usine devient de plus en plus important, ce qui implique le salariat. Donc, les gens dépendent d'un salaire pour leur survie. Et à cette époque-là, souvent, le salaire n'était pas suffisant là, pour payer toutes les dépenses des familles.
Oui, il y avait des grandes familles aussi, beaucoup d'enfants.
Exactement, exactement. Donc, la misère urbaine est devenue un phénomène assez important à Montréal, comme dans les autres grandes villes en Amérique du Nord ou même en Occident. Et donc, face aux misères urbaines, s'est développé différentes formes de charité institutionnelle. Donc, une des premières institutions à intervenir auprès des pauvres, c'était la prison.
Ah oui, on mettait les pauvres en prison.
Tout à fait. En l'absence de d'autres formes d'intervention, de d'autres institutions, les pauvres côtoyaient les criminels dans les prisons. Donc, quelqu'un qui n'avait pas de domicile, pas d'emploi, rien, qui pouvait parfois avoir d'autres problématiques aussi, on pouvait l'accuser, par exemple, d'avoir flâné dans les rues et l'envoyer faire un séjour en prison.
On l'accuse d'être pauvre, mais on essaie de trouver des moyens détournés pour l'envoyer en prison.
Exactement, exactement. La prison devient donc un lieu d'enfermement qui permet de soulager, le moins peut-être pas le bon, là, mais d'intervenir au niveau des problèmes de la pauvreté urbaine. Mais on retrouvait, par exemple, ici, dans le quartier, c'est intéressant, il y a la prison du Pied du Courant.
Oui.
Et donc, à cette époque-là, à l'ouverture de la prison, au tout début du 19e siècle, il y avait des sections réservées. Les femmes étaient dans la même prison. Il y avait aussi ce qu'on appelait les fous et les aliénés. Donc, les gens qui avaient des problèmes de santé mentale aussi se retrouvaient dans la prison. Les pauvres et même les enfants.
Ah.
Alors, les enfants côtoyaient les criminels plus endurcis. Alors, à partir de cette époque-là, les gens un peu plus progressistes ont commencé à développer différentes mesures mieux adaptées, donc ouverture d'une prison pour les femmes. Les jeunes, on les envoie davantage dans des écoles de réforme. Et ensuite, les fous, bien, on les envoie dans des asiles d'aliénés. Alors, peu à peu, se développe tout un réseau institutionnel adapté à des clientèles différentes.
Oui.
Donc, c'est ce qu'on présente dans cet expo-là. Et dans le quartier Centre-Sud, bien, il y a beaucoup de traces de ces institutions-là. On n'a qu'à penser, bien, la prison du Pied-du-Courant est toujours là.
Oui, tout près du... En dessous du pont Jacques-Cartier?
Exactement, en dessous du pont Jacques-Cartier. On peut penser à l'hôpital de la Miséricorde, qui était une autre institution importante, donc qui intervenait auprès des filles-mères. C'était situé juste ici sur Dorchester, ben René Lévesque aujourd'hui, près de Berry. Les hôpitaux aussi ont été des institutions charitables au départ, parce que ceux qui avaient beaucoup d'argent, ceux qui étaient en moyen, ben avaient leurs médecins qui les visitaient à domicile, parce que les hôpitaux étaient souvent des salles communes, et là on recevait souvent des pauvres aussi.
Ouais.
C'est vraiment à la fin du 19e siècle, au moment où la médecine va se spécialiser, la chirurgie, les traitements de pointe.
Et comment c'est raconté à travers l'exposition? C'est surtout des photos que vous proposez?
Oui, il y a beaucoup de textes, mais les textes sont intéressants, je dois le dire, donc ça vaut la peine d'aller.
Est-ce que c'est vous qui les avez écrits?
Non, c'est M. Martin. Ben, en fait, c'est toute l'équipe de chercheurs qui gravitent autour du Centre d'histoire des régulations sociales, ont chacun leur spécialité.
Ouais.
Le directeur du Centre d'histoire, Martin Petitler, c'est lui qui a comme recueilli l'ensemble des textes et qui a uniformisé pour s'assurer que ça soit bien lisible, bien agréable à lire. Et ce qu'on présente surtout, c'est de l'iconographie, en fait, beaucoup de photos. Et souvent, l'angle qui est privilégié, c'est qu'on souhaite présenter les choses pour que les gens comprennent quelle était l'expérience vécue à l'intérieur de ces...
Alors on peut se mettre dans la peau de la personne qui a vécu cette époque.
Oui, d'une certaine façon. Donc, il y a un certain nombre d'extraits de journaux aussi qui témoignent un peu de ces gens-là, puis les conditions qui les amenaient à se ramasser dans ces institutions-là. Je pense entre autres à un article qui présente une mère de famille qui est veuve, qui a plusieurs enfants, puis qui a de la difficulté avec son aîné, et finalement, elle le fait condamner pour qu'il aille à l'école de réforme. Donc, c'est une façon pour elle d'avoir une bouche de moins à nourrir.
Ah oui.
Et donc, les familles avaient parfois recours aux institutions aussi comme stratégie de survie. Là.
Juste l'expression « l'école de réforme », ça fait mal au cœur, je trouve.
Oui.
Et on va pouvoir voir cette exposition-là jusqu'à quelle date, M. Giroux?
Jusqu'à la fin du mois d'août, au 30 août.
OK, donc une bonne partie de l'été, là,
oui,
tout l'été.
C'est ça, c'est ça.
Et l'autre exposition aussi qui a attiré mon attention, c'est une alternative virtuelle, finalement,
oui,
Fleurs sauvages.
Oui. Mais tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on développe beaucoup de projets en partenariat. Fleurs sauvages, c'est un projet qui s'inscrit dans un partenariat qu'on a avec la Faculté des arts de l'UQAM. Donc, c'est la quatrième année qu'on fait ça. On a une entente avec eux et à chaque année, on lance un appel à projet. On invite donc des étudiants, des équipes d'étudiants, à nous proposer une exposition. Donc, en tenant compte un petit peu de notre mandat, de notre mission, du territoire dans lequel on se trouve. Et on se réunit en comité avec les gens de l'UQAM et on choisit un projet. Et ensuite, les étudiants peuvent réaliser ce projet-là et le présenter dans nos murs pendant 3 semaines.
Ah, c'est une belle idée, ça.
Oui, ben, ça nous permet de continuer à travailler avec l'UQAM, mais aussi de donner la chance à des jeunes de...
Mais de se faire voir et de se faire connaître.
Exactement, exactement. Et donc, l'année dernière, c'était une équipe d'étudiantes qui étudie dans le programme de maîtrise en muséologie qui avait proposé le projet Fleurs sauvages. En fait, il s'intéressait à la dimension végétale, si on veut, du Centre-Sud, qui est un quartier densément construit et tout ça.
Il y a des fleurs, là.
C'est ça. Elles ont fait le pari de raconter un petit peu l'histoire des plantes,
la flore.
La présence des fleurs, etc., dans un quartier comme celui-ci. Avec la pandémie, l'exposition était prévue à l'origine du 20 mai au 7 juin. Et c'était compliqué de la reporter parce qu'en fait, on empruntait des objets à certains autres musées. On ne savait absolument pas à quel moment on pourrait reprendre tout ça. Puis comme les étudiantes, certaines parmi elles étaient des Françaises qui étaient dans un programme d'échange, bien, il y en a 2 membres de l'équipe qui retournaient dans leur famille cet été. Donc, il n'était pas possible vraiment de reporter le projet. Alors, on leur a dit, ben, vous avez fait un beau travail, ça serait intéressant d'en présenter une bonne partie. Donc, c'est là l'idée d'une alternative virtuelle. Alors, elles ont écrit les textes et tout ça. Il y a différentes sections de l'exposition. Donc, on parle des Premières Nations aussi qui habitaient l'île et, bon, leur pratique avec certaines plantes médicinales. On souhaitait présenter la flore laurentienne, donc l'ouvrage majeur du frère Marie-Victorin, mm-hmm. Puis s'en venir plus vers le présent, avec la présence des jardins communautaires, puis maintenant certaines pratiques des ruelles vertes, les toits verts. Donc,
mais là, l'exposition... Oui, continuez.
Oui, de montrer un petit peu comment... la verdure a repris un peu certains droits là, sur ce territoire-là, sur cet espace urbain-là.
Et là, bon, vous l'avez offert de façon virtuelle, oui. Et ça se poursuit encore quelques semaines?
Ah, ça va être, je vous dirais, pour l'éternité probablement, mais on n'a pas prévu de fin pour ça. C'est sur notre site Internet, les gens peuvent s'y rendre et parcourir ce projet-là.
Et ça va rester virtuel?
Oui, ça va rester virtuel.
OK. Ben merci beaucoup d'avoir parlé de ces deux expositions qui semblent vraiment intéressantes, deux mondes, déjouer oui. la fatalité, pauvreté, famille, institution oui. et Fleurs sauvages, qui est une alternative virtuelle, mais on peut aller là chez vous. Et ça vaut vraiment le détour, l'Éco-musée du Fiermonde, parce que c'est magnifique. Hein,
oui. Il y a toujours notre exposition permanente aussi qui raconte l'histoire du Centre-Sud. Donc, une perspective intéressante aussi, là, l'histoire d'un quartier ouvrier, d'un quartier industriel qui s'est transformé en quartier populaire. C'est un autre visage de Montréal qui mérite d'être découvert aussi.
Oui. Est-ce que les heures d'ouverture sont toujours les mêmes?
Oui, l'horaire d'été, donc du mercredi au dimanche. Le mercredi, on est ouvert jusqu'à 20h, et puis les samedis, du jeudi jusqu'au dimanche, ben, c'est jusqu'à 17h qu'on est ouvert.
Et rappelez-nous l'adresse, 2050 rue Atatecun.
Atatecun, c'est ça.
Je l'ai dit pour vous. Ben, un grand merci, Éric Giroux, directeur de l'Éco-musée et responsable de la recherche et des collections. Bon été.
Ben, vous aussi.
Merci.
Au revoir.